Au départ, donc, c'est le FRAC PACA qui m'a proposé de faire quelques petites conférences autour du livre que j'ai publié chez Jeanne Lafitte, Marseille révélé par l'art contemporain. Et je leur ai proposé, en fait, plutôt que de faire des conférences au FRAC lui-même, c'est-à-dire devant un public de gens qui, a priori, s'intéressent déjà à l'art contemporain et sont familiers de ce genre de lieu, de proposer des débats décentralisés dans des lieux insolites et éventuellement même dans la rue, comme ça sera le cas le 8 juillet.
Une conversation socratique, c'est un café philo, c'est pareil ?
Oui, c'est un peu pareil, avec une prise de risque un peu plus grande, puisque là, bon, le 8 juillet, donc on sera au Cèdre, on sera dans la rue, on sera dans une cité un peu sensible, disons, surtout cette période de l'année. Donc il y a quand même quelque chose de plus risqué que de faire un café philo dans un endroit où là aussi les gens sont peut-être habitués à venir discuter. Donc c'est entre le café philo, le débat et puis le happening un peu, je pense.
Au Cèdre, la question c'est la place de l'art dans la cité, point d'interrogation, donc pas évident la place de l'art dans la cité, a priori, d'autant plus que ça part d'une expérience menée par un artiste marseillais, Richard Bacquier, qui est mort en 1995, assez jeune, d'un cancer, qui avait proposé une sculpture pour l'espace public qui s'appelait L'Aventure plus loin, une sculpture qui a connu un destin un peu tragique.
Effectivement, c'est un lieu qui m'a toujours touché parce que cette œuvre, elle était assez émouvante, je trouve, comme tout le travail de Bacquier. Et avec Ricardo Vasquez, donc, qui co-animera le débat avec moi, on va s'interroger justement sur l'histoire de cette œuvre. D'abord, sa conception, en fait, qu'est-ce qu'elle voulait peut-être dire, qu'elle n'a peut-être pas réussi à dire, je ne sais pas, qui n'a peut-être pas été assez entendue. Et puis, quel a été son devenir, puisqu'elle a été en fait désinstallée assez rapidement. Donc, elle a été détruite assez vite pour des raisons qui ont l'air plus complexes que ce qu'on dit souvent. Donc ça, c'est le travail aussi de Ricardo qui a été précieux là-dessus. Et voilà, donc on va réfléchir à la fois sur la place de l'art dans la cité, avec le mot cité d'ailleurs qui est ambigu. C'est à la fois la place de l'art dans la ville, dans l'espace public, et aussi la place de l'art dans cette cité-là qui est problématique, où les personnes qui l'habitent sont peut-être pas très familiers non plus de l'art contemporain. Donc il y a peut-être eu un problème déjà à la base de la conception et de l'accompagnement de l'œuvre. Sans doute que l'accompagnement aurait peut-être été mieux fait. Je sais pas, aurait pu être mieux fait en tout cas. Et puis après, c'est aussi la définition même de l'art qui sera un peu d'ailleurs au centre de tous les débats que je mènerai, puisque bon, beaucoup de personnes encore aujourd'hui, d'ailleurs des habitants du quartier et d'ailleurs, ne reconnaissent pas forcément le travail de Richard Bacquier, donc cette fontaine, bon, la voiture dans la fosse, les grandes lettres, l'aventure, etc., ne le reconnaissent pas forcément comme œuvre d'art. Donc il y a déjà eu peut-être aussi une incompréhension là-dessus. Donc on essaiera, donc dans la rue, avec les gens qui seront là, de discuter d'abord qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce qu'on peut en attendre, pourquoi cette œuvre aurait pu fonctionner, qu'est-ce qu'elle voulait dire, pourquoi est-ce comment est-ce qu'elle s'insérait dans le quartier et comment finalement elle n'a pas pu s'y insérer, puisque de fait, bon, elle a disparu assez rapidement.
Ricardo Vasquez, vous avez été amené à vous intéresser particulièrement à l'œuvre de Richard Bacquier. Pour quelle raison ?
J'ai entamé un travail un peu universitaire. J'ai essayé de travailler sur notamment l'art public, aussi bien en matière d'art de la rue l'année dernière. Et puis cette année, je me suis intéressé plus précisément, enfin je m'intéresse déjà depuis plusieurs années, au travail de Richard Bacquier, qui est effectivement un artiste très important à Marseille et qui a laissé beaucoup de traces, beaucoup de souvenirs, très ému. C'est un artiste très très important qui était promis à une très belle carrière. Et c'est vrai que ce travail de l'aventure est assez symptomatique d'un certain nombre de difficultés qu'a pu rencontrer la commande publique dans l'espace urbain. Donc du coup, effectivement, j'ai été très intéressé de me pencher sur l'aspect multifactoriel d'une réception difficile de cette œuvre. Je dis multifactoriel parce que, comme l'a dit Marc, il y a sûrement beaucoup de raisons, parfois assez contradictoires d'ailleurs, et il ne sera pas facile de démêler tout ça. Mais le but n'est pas tellement de démêler, mais plutôt d'essayer de tracer des pistes de réflexion.
Mais par exemple, quelques raisons que vous pourriez nous donner là, sur l'échec de cette installation d'œuvres d'art dans l'espace public au Cèdre, enfin mal passé.
Alors déjà, je ne suis pas sûr que ce soit un échec. En tout cas, c'est une œuvre qui n'est pas restée, bien qu'il reste encore un bloc de béton. Mais bon, on peut dire quand même que même Richard Bacquier, qui avait un discours sur l'aspect éphémère d'une œuvre publique notamment, ne s'attendait peut-être pas à ce qu'elle soit aussi éphémère, puisqu'elle est restée à peine 2 ans. Mais il y a sûrement beaucoup de raisons. Alors il y a des raisons liées à l'accompagnement effectivement artistique qui peut-être était compliqué, bien qu'il ait été fait. Mais sans doute que le chemin était très, très grand à faire. Il y a des questions sans doute liées à l'entretien de l'œuvre, qui sont assez contradictoires d'ailleurs, parce que certains disent on aurait dû entretenir l'œuvre de manière plus rapide, et d'autres disent quand on est intervenu sur la restauration de l'œuvre, bah, ça a désacralisé l'œuvre, c'est devenu un objet comme un autre. une œuvre, elle est immuable, on ne la touche plus. Si on la restaure, ça devient un objet banal. Bon, donc tout ça est assez contradictoire. Et puis il y a sans doute des enjeux internes au quartier qu'on essaye un petit peu de démêler. Était-ce la priorité de faire une œuvre de ce type-là à ce moment-là dans un quartier aussi difficile? Donc je n'ai pas vraiment de réponse à ça. On va essayer justement de recueillir un peu la parole des habitants de ce point de vue-là. Il y avait sans doute aussi des raisons techniques. C'est une œuvre complexe, très sophistiquée. Or, dans l'espace public, une œuvre doit être solide. Alors, pour ma part, j'essaie de réfléchir et on essaie de dialoguer là-dessus, sur, avec plusieurs personnes, sur la volonté de Bakier, puisqu'il ne pouvait pas ignorer qu'une œuvre publique devait sans doute être plus solide que d'autres. Or, cette œuvre-là était assez fragile. Donc il y a aussi des questions techniques qui se posaient, des questions d'entretien de l'œuvre, des questions de malfaçon aussi, au moment de la construction. Donc il y a beaucoup de raisons possibles. Et c'est sans doute la conjonction de ces choses-là qui fait que l'œuvre n'a pas duré aussi longtemps qu'on aurait pu le penser.
C'est une œuvre qui s'appelait L'Aventure plus loin. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il pouvait y avoir aussi des mauvaises interprétations qui pouvaient naître de ce titre?
Beaucoup de critiques d'art ou de sociologues ont évoqué cet aspect. L'aventure plus loin, ça aurait pu vouloir dire de l'autre côté, plus loin, il y a la mer, et puis de l'autre côté de la Méditerranée. Et comme une bonne partie des habitants sont à deux, trois générations avant, peut-être d'origine de maghrébine, on pouvait laisser penser que Bakier leur disait de partir de l'autre côté de la mer. Moi, j'en ai entendu personne du quartier dire ça. Alors, c'était il y a 20 ans, donc on ne sait pas ce qui s'était dit il y a 20 ans. Mais ce n'est pas une piste qui, pour ma part, le sens de l'œuvre en elle-même ne me paraît pas être une piste féconde. Je pense qu'au pire, l'œuvre n'a pas été comprise, mais je ne crois pas qu'il y ait eu un rejet de cette œuvre-là. Je ne pense pas que les habitants l'aient ressenti, que le message que Bakier a voulu lancer était ressenti comme quelque chose de violent. D'ailleurs, ce n'était absolument pas l'intention de Bakier, et je ne crois pas que les habitants l'aient ressenti comme tel. Au pire, ils ne l'ont pas compris, mais je ne suis même pas sûr qu'ils ne l'aient pas comprise.
Est-ce qu'une des pistes, c'est que cette œuvre a pu être perçue comme l'incarnation d'une puissance publique qui abandonnait finalement les habitants dans ces cités un peu, ou même beaucoup dégradées, et que donc cette incarnation d'une puissance publique devenait insupportable?
Oui, bah c'est sûr qu'il y a quand même peut-être un petit peu de cynisme. Enfin, en tout cas, quand on lit les textes de Robert Vigouroux, enfin des gens qui ont participé à l'époque à ce projet, c'est vrai que bon, rendre la dignité aux gens du quartier, une œuvre qui va embellir leur environnement, c'est sûr que les gens n'ont peut-être pas vécu ça comme une priorité par rapport à leurs problèmes quotidiens. Et donc là aussi, il y a peut-être un problème politique au sens plus large. Donc la sculpture, elle a peut-être été révélatrice de ça, quoi, aussi. Hein. Mais Bakier le disait d'ailleurs, alors je le cite, hein, puisque j'ai sous les yeux. Donc à propos de la destruction, il écrit « J'accepte sa destruction. Mieux sa destruction m'intéresse, mieux elle est une conséquence naturelle, une démonstration de l'illusion de pérennité. » Puisque c'est vrai que bon, le temps qui passe, l'usure des choses dans le travail de Bakier, c'est toujours très présent. Mais il écrit aussi: alors pourquoi s'étonner quand il n'y a qu'une personne sur 1000 pour qui cette sculpture ait une chance de comprendre ou est déterminante pour sa vie future, que les 999 autres brisent l'objet, compromettant par impossibilité d'autre chose. Donc bon, il y avait quand même, comme le disait Ricardo, cette amertume, bon, cette idée que le travail de Bakier, on le sait, il est quand même enraciné dans la culture populaire. C'est quelqu'un qui voulait, d'une certaine manière, prolonger des choses de l'espace urbain, de la ville. Et puis bon, le fait que ça ne soit pas, que ça se soit mal passé pour une raison ou pour une autre, de toute façon, je pense qu'il en a quand même gardé une certaine amertume. Je pense qu'il s'attendait à ce qu'elle soit détruite, bon, sont tous les un jour ou l'autre, mais aussi rapidement, je pense que c'était quand même un petit peu choquant. Mais à l'époque, ça avait quand même choqué un peu tout le monde, puisque bon, je me souviens quand même que ça avait beaucoup fait parler, cette histoire en 88, et c'est vrai, il y avait quand même une certaine violence. Alors bon, la violence, elle vient pas de nulle part, bien sûr. La violence, elle est inhérente à des conditions de vie, elle est inhérente à beaucoup de choses. Donc voilà, je crois que l'œuvre d'art, elle sert de révélatrice, quoi. Enfin, voilà, c'est un révélateur de la réalité. Et là, je trouve que l'œuvre, elle a fonctionné très bien, d'une certaine façon, si on attend de l'art qui nous révèle la réalité.
Quelle part exacte ont pris les habitants de Malpassé dans la destruction de cette œuvre? On a entendu dire qu'il y avait pas mal de malfaçons dans la construction de cette œuvre.
Alors effectivement, en regardant les archives qui sont disponibles concernant cette œuvre, on peut constater qu'il y avait pas mal de difficultés techniques et de malfaçons au moment de la construction de ce travail, qui sont revenus très cher à la ville de Marseille en réparation et en entretien, et qui n'avaient pour la plupart d'entre eux aucun rapport avec l'intervention malveillante des habitants. Alors il est très probable et même sûr qu'ils ont cassé les vitres une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, mais pas plus que d'autres œuvres publiques sans doute. Et la part respective de ce qui relevait de difficultés techniques inhérentes à la construction de l'œuvre et des malveillances des habitants n'est pas si claire que ça. Donc pour ma part, je ne suis pas absolument convaincu que cette œuvre-là ait vraiment fait l'objet d'un rejet et d'un vandalisme particulier de la part des habitants.
Donc peut-être que les habitants de Malpassé ont eu bon dos sur cette histoire-là. Est-ce qu'il existe d'autres œuvres de Richard Baquet pour l'espace public ou c'était la seule ?
À ma connaissance, c'est la seule. C'est quelqu'un quand même qui fait un travail assez intimiste, basé sur la fragilité et sur le temps qui passe. Et ce sont toujours des œuvres très délicates et à ma connaissance, il n'en a pas fait d'autres.
Toi, Marc, tu as été instituteur, professeur des écoles à Malpassé. Je crois que c'était peut-être juste un peu après, c'est ça, de ça. Donc, est-ce que tu avais eu déjà des témoignages ?
Oui, alors les élèves en avaient effectivement un vague souvenir quand même. Donc, ils n'avaient pas participé eux-mêmes à la destruction. Enfin, ils n'avaient pas vu la destruction, disons. C'était plutôt leurs grands frères ou leurs parents. Ils en avaient un souvenir. Alors, ce qui avait été intéressant à l'époque, c'est vrai qu'on avait fait un gros travail sur l'œuvre de Baquet. Et j'avais pu constater qu'assez rapidement, en fait, en donnant quelques clés, les élèves étaient passés d'une réaction un peu d'incompréhension devant son travail à vraiment une réaction d'adhésion. Et quand je les avais amenés voir l'exposition rétrospective au MAC, ils avaient fait preuve vraiment d'un intérêt tout particulier qui avait étonné d'ailleurs les conférenciers venant d'enfants à capital culturel, a priori assez faible quand même. Et c'est ce qui me fait dire d'ailleurs qu'il y a eu un déficit peut-être de parole autour de cette œuvre. Et bon, d'une certaine manière, d'ailleurs, ce qu'on va faire le 8 juillet, ce sera faire revivre l'œuvre, quoi, puisqu'elle ne vit plus, concrètement ou très peu, enfin, il ne reste pas grand chose, mais je pense qu'en parler, c'est aussi continuer le travail de Baquet, puisque de toute façon, son travail à Baquet, il est toujours aussi fondé sur le mélange des objets et des mots, justement. Il y a quelque chose de très important au niveau du langage dans son œuvre. Donc je pense que parler de cette œuvre et sur ce lieu-là, quoi, qui est devenu un lieu quand même chargé, effectivement, symboliquement, je pense que c'est une manière finalement de prolonger son travail. Et d'ailleurs, on a bien apprécié avec Ricardo Vasquez le fait que les responsables du centre social Malpassé, qui est juste en face, adhèrent vraiment à notre projet. Donc ils s'y sont associés finalement, et ils s'associent avec nous pour organiser ça. Ils ont envie d'en parler et ils ont envie aussi d'attirer des gens, enfin, dans ce quartier-là, enfin, de montrer qu'on peut venir au Cèdre pour de bonnes raisons, pour discuter, pour échanger des idées, que ces quartiers ne sont pas des quartiers interdits, des quartiers dans lesquels on ne pourrait pas s'aventurer, justement, c'est le cas de le dire puisqu'on parle de l'aventure. Et voilà, puisqu'il y a des Marseillais pour lesquels déjà aller au Cèdre, c'est une aventure, donc ça, on pourra en parler de ça aussi. Et on a bien aimé donc la réaction comme ça des gens du quartier qui sont vraiment associés avec nous, puisque le travail enfin, la sculpture elle-même, l'aventure, elle travaille un peu sur le montrer, le cacher aussi, hein, puisque bon, Baquet montrait Marseille comme ça, vu de Notre-Dame de la Garde sur la fontaine, le bloc fontaine, et puis il y avait aussi cette voiture désossée qui, elle, était dans le sol. Donc déjà, l'œuvre, elle jouait sur ces tensions, le montrer et le cacher, le visible et l'invisible, ce qu'on veut donner à voir et ce qu'on veut au contraire peut-être occulter. Donc d'une certaine manière aussi, là, comme on le disait, amener des gens qui s'intéressent à l'art contemporain ou qui s'intéressent moins au Cèdre pour en parler, pour nous, voilà, ça prolonge un petit peu l'esprit de cette œuvre, quoi.
Quel impact cette expérience-là, donc, d'œuvres détruites pour de multiples raisons, ça a eu ensuite sur des politiques publiques vis-à-vis de l'art contemporain, de l'espace public ?
Cette œuvre-là avait fait quand même l'objet d'un grand investissement public et il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans ce travail-là par la qualité de l'artiste et par l'accompagnement global qui avait été investi. Et c'est vrai que cette destruction un peu rapide a fait s'interroger beaucoup sur la façon de travailler et il est vrai qu'à présent on privilégie plutôt dans ce genre de situation, une implantation d'artistes en résidence pendant de nombreux mois, avec souvent une porte ouverte par un habitant du quartier, souvent un artiste qui habite le quartier ou qui est en tout cas familier du quartier, qui permet à ce moment-là à l'artiste de s'imprégner beaucoup plus et d'être beaucoup plus facilement accepté par les habitants. Et je sais qu'en ce moment, il y a pas mal d'expériences sur cette thématique-là, notamment à Marseille, et je pense que les commanditaires mettent beaucoup d'espoir dans cette façon de travailler, qui existait déjà à l'époque, mais qui est maintenant beaucoup plus développée que dans le temps. Dans le cas de Baquet, l'idée, c'était de dire lui-même est issu de quartiers populaires. En fait, il était issu des 5 avenues. pas, dans, pas des quartiers nord. Et donc, il est capable de résister à la pression de ce quartier. Sauf que la question n'était pas de savoir si Baquier pouvait résister, mais si l'œuvre de Baquier pouvait résister, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Sur la question de la place de l'art dans la cité, justement, Jean-Christophe Nourisson, quelques années après l'aventure et suite à justement ces événements malheureux, s'était interrogé aussi sur la pertinence de mettre des œuvres comme ça, finalement accessibles. Et il avait proposé pour le Parc Bellevue, dans le cadre aussi d'une commande publique, dont une œuvre que j'aime bien, qui n'a jamais été installée finalement, qui consistait en fait à pasticher un panneau autoroutier, comme à l'entrée des villes, souvent il y a abbaye 12e siècle ou château 17e siècle, de mettre en fait un panneau comme ça en noir et blanc avec le plan masse du Parc Bellevue, avec simplement marqué Parc Bellevue 20e siècle. C'est une œuvre que je trouvais très, très intéressante du point de vue artistique, d'un point de vue sociologique, parce que justement dans ce cas-là, en fait, ben, l'œuvre c'était la cité elle-même, quoi. Et puis c'était le regard qu'on incitait à porter dessus. Mais bien entendu, pour des raisons qu'on peut comprendre, la puissance publique n'a peut-être pas cru bon d'installer ça, parce que ça posait des problèmes aussi sur la façon dont on a abandonné ces cités, et justement sur la façon aussi dont on veut ne pas les voir la plupart du temps. Mais c'était aussi une manière de détourner la contrainte finalement de l'art dans la cité, en disant que l'art, il peut pointer du doigt quelque chose de l'extérieur quasiment, de façon un peu conceptuelle, un peu nominaliste, quoi. Donc j'aime bien cette œuvre aussi, je regrette qu'elle n'ait pas été installée. Donc entre les œuvres qui n'ont pas été installées et les œuvres qui ont été détruites, c'est vrai que le rapport entre l'art contemporain et Marseille, c'est quand même compliqué, quoi.